Il faut être conscient dans le monde, on va dire, globalement chrétien et évangélique, qu'il y a des variances, qu'il y a des nuances, qu'il y a des différences tenues par des chrétiens qui tous ont la même conviction que la Bible est inspirée par Dieu. Typiquement, pour des textes concernant les temps derniers, il y a des variances de lecture, d'approche. Certains vont par exemple lire l'Apocalypse essentiellement comme étant la description littérale d'événements futurs. D'autres ont une vision plus globale en disant que l'Apocalypse est aussi une révélation de Jésus-Christ, au sujet de Jésus, qui nous parle du plan du salut et qui a des éléments même non temporels ou intemporels, et ce n'est pas que des prédictions. Ce qu'il faut réaliser, c'est que dans l'interprétation des Écritures, les gens qui prétendent être littéraux ne le sont pas totalement. Même pour la Genèse, même pour la fin des temps, tout le monde reconnaît certaines métaphores, certaines images, certaines formes de style. Et puis chez ceux qui sont métaphoriques, ce n'est pas non plus qu'ils rejettent toute historicité ou toute réalité à l'avenir, par exemple la venue de Jésus. Hein. Oui, c'est arrivé une fois, on a eu un brave curé qu'on a fait prêcher à notre, qui est venu prêcher à notre culte une fois à Nyon. Parce qu'on faisait des échanges de chair, même avec les amis catholiques, et il a dit, oui, le retour de Jésus, c'est quand Jésus vient dans notre cœur. Donc il a vraiment réduit le retour de Jésus à l'expérience personnelle, ma foi. C'est ainsi, mais ce n'est pas une position juste, je pense, si on est face au message des Écritures. Là où il y a débat, c'est pour ça qu'on en parle pas mal par rapport à Israël et au temps de la fin. C'est tous les débats autour de la question du millénium, de ces 1000 ans annoncés dans Apocalypse 20. Est-ce que c'est vraiment une période terrestre? À quel moment elle a lieu? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, une dimension spirituelle? Et je rappelle le verset clé, Acte 24, il parle des gens qui revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, c'est le passage clé. Donc certains voient vraiment une période littérale, d'autres non. Et métaphorique, et c'est des chrétiens engagés des deux côtés. C'est clair, dans nos milieux Église de réveil, on est plutôt empreint de prémillénarisme, on va voir, donc on croit à un temps millénial de 1000 ans, littéraux, ou en tout cas une longue période de temps, entre une première venue de Jésus et le jugement dernier. On va voir ça en détail. Mais il y a des chrétiens, des baptistes, des réformés, qui ont d'autres options. Et ce que je voudrais, là je vais parler un peu des différents points de vue, en montrant les forces et les faiblesses de chacun, en se disant, oui, moi j'ai peut-être ma conviction sur ce sujet, mais celui qui pense le sujet autrement a peut-être perçu des éléments sur lesquels je devrais quand même faire attention. Vous voyez, quand on dialogue sur des doctrines qui ne séparent pas les chrétiens des non-chrétiens, des doctrines différentes entre chrétiens, il faut que je trouve chez celui qui ne croit pas en moi, non, heureusement, qui ne croient pas comme moi, peut-être des choses que moi j'ai négligées. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, mais doctrinal. Le baptême des adultes et des enfants. Moi je suis credo-baptiste, je crois au baptême des croyants. Je crois que le baptême est le signe qui scelle visiblement l'engagement d'un croyant, et donc on ne peut pas baptiser un enfant. Mais j'en discutais avec un de mes collègues réformés, parce qu'à l'HET Pro, on a des profs réformés évangéliques. Pour eux, l'enfant est présenté à Dieu parce qu'on croit que comme il est né dans une famille chrétienne, on peut prononcer sur lui, a priori, la bénédiction de Dieu et le fait que Dieu a des promesses pour cet enfant. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Et quand il sera adulte, il devra prendre une décision pour Jésus quand même. Et peut-être que nous, alors, on ne fait pas assez attention à ça. Mais ce qu'il y a de très drôle, c'est que les credo-baptistes ont inventé un rituel qui est vraiment pas biblique, quoi, peu biblique, en tout cas peu chrétien, qui est la présentation des enfants. La seule excuse qu'on a, c'est la présentation de Jésus, qui est un rite juif, qui n'a rien à voir avec l'Église. Et vous ne trouvez aucune prescription dans le Nouveau Testament pour baptiser les enfants, parce que nous sommes conscients qu'il faut accueillir l'enfant dans la communauté, dans un sens, et l'entourer. Puis les réformés ou les pédobaptistes qui baptisent les enfants, eux, ils ont inventé un autre rituel qui n'est pas dans la Bible, qui s'appelle la confirmation. Parce qu'eux, ils sont conscients que chacun doit pouvoir se décider en tant que croyant adulte pour le Christ. Donc des deux côtés, on réalise une déficience qu'on comble avec un rituel très sympathique. Hein, moi, je n'ai rien contre la présentation ou la confirmation. Mais il faut se dire, ben, l'autre, il a mis l'accent. Le credo baptiste, il va stimuler le réformé à dire, mais attention, il faut que la personne qui est... qui grandit doit prendre une décision d'adulte. Et puis moi, je dois, en tant que credo baptiste, dire, mais un enfant, c'est pas rien devant Dieu. Vous voyez? Et on va dans le même paradis. Hein. Il n'y aura pas un paradis pour les credo baptistes, puis un paradis pour les credo baptistes. Alors moi, j'y tiens hein, au credo baptiste. Ça change toute ma vision d'église. C'est important pour moi. Mais je reconnais chez mes frères et sœurs qui ont une autre conviction qu'ils ont des choses à m'apporter. Alors c'est la même chose sur ces points de vue. Alors on va voir... Les quatre principales manières de comprendre les prophéties. La première, je la cite comme ça, je pourrais les mettre dans un autre ordre, il n'y a pas une idéologie dans la présentation. La première position, c'est la position qu'on appelle l'amillénarisme, c'est un A privatif qui veut dire qu'il n'y a pas de millénium terrestre. Un théologien amillénariste, Buller, baptiste, parce que les assemblées baptistes, hein, l'association baptiste en Suisse, sont amillénaristes. La plupart, il dit l'amillénarisme, A privatif, ne conçoit pas le millénium comme un royaume terrestre de prospérité et de paix avec Jérusalem comme capitale et Jésus comme roi. Pour cette thèse, le millénium se situe dans les sphères spirituelles ou s'identifie avec l'Église sur laquelle Christ règne maintenant. Le retour corporel de Christ introduit l'éternité. Donc il n'y a pas de millénium et le retour de Jésus introduit tout de suite aux temps éternels. Donc pour eux, le millénium, c'est le temps présent de l'Église. Quand l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 1, dit que Satan est lié, l'amillénariste voit la victoire de Jésus à la croix, où il a lié l'homme fort, et le diable, depuis la victoire de la croix, ne peut plus empêcher les gens de croire. C'est la thèse, hein, je ne dis pas que c'est la mienne. Hein. Les premiers pères de l'Église, on a vu, croyaient à un millénium littéral, la plupart, mais avec Augustin d'Hippone, et l'Église catholique romaine dans son ensemble, c'est l'amillénarisme qui a été la thèse principale développée, et les réformateurs de la réforme magistérielle, donc Calvin, Luther, Zwingli, etc., ont aussi soutenu cette lecture. Et notamment Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, qui est quand même l'ouvrage de doctrine que je vous recommande, si vous avez la peine avec le vieux français, en 2009 a été publié l'institution chrétienne en français courant, bien mis en page, aux éditions Excelsis, et je crois qu'Erigma, mais en tout cas Excelsis. Et je vous recommande, c'est vraiment un ouvrage de fond doctrinal. On n'est pas d'accord avec tout ce que dit Calvin, mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est d'accord. Sur ce sujet, on n'est pas d'accord, mais sur le sujet de la justification par la foi, beaucoup de choses, c'est vraiment une mine. Hein. Il y en a pour, je sais pas, 1000 pages, hein. Voilà ce qu'il dit dans l'histoire de son opposition au règne éternel du Christ. Et rapidement après sont arrivés les kyliastes. Alors kyliastes, ça vient d'un mot grec qui veut dire mille, donc ceux qui croient au millénium terrestre. Hein. Rapidement après sont arrivés les kyliastes qui voulaient raccourcir et réduire à 1000 ans le règne de Jésus-Christ. Leur propos est si enfantin qu'il n'a pas besoin d'être réfuté car il n'en est pas digne. Pas très tendre, hein, Calvin. L'Apocalypse qu'ils ont invoqué pour couvrir leur erreur, ne les favorise en rien, puisque le nombre de 1000 dont il est fait mention, Apocalypse 24, ne concerne pas la bénédiction terrestre de l'Église, mais les nombreux troubles qui devaient intervenir pour persécuter l'Église. D'ailleurs, toute l'Écriture indique que la punition des réprouvés, comme le bonheur des élus, n'auront pas de fin. Donc lui, il interprète la foi dans le millénium comme l'idée que le règne éternel du Christ dure 1000 ans. Bon. Chez les luthériens, leur grande confession d'Augsbourg affirme aussi « On rejette aussi certaines doctrines judaïques qui aujourd'hui encore se font jour sous nos yeux, d'après lesquelles, avant la résurrection des morts des saints, des justes auront seuls un empire terrestre et extermineront tous les impies. » Alors l'amillénarisme, par définition, est supersessionniste, c'est-à-dire toutes les prédictions concernant le futur d'Israël, dont certaines manifestement ne sont pas encore accomplies, et toutes ces prédictions sur Jérusalem doivent être spiritualisées, doivent être lues non de manière littérale, et donc concernent l'Église. L'Église qui est le seul vrai peuple de Dieu et qui remplace intégralement le peuple juif. Et donc, il n'y a pas une attente de conversion des Juifs à la fin des temps, mais l'idée que des Juifs, tout au long des siècles, rejoindront la grande Église universelle, pagano et judéo-chrétienne. Donc, c'est ça l'idée de la millénariste. Alors, les points forts, il faut les souligner, il faut toujours souligner, c'est que la millénarisme engage le chrétien à focaliser son espérance sur le royaume éternel. Parce que dans tout ce débat sur le millénium, même si on est pré-millénariste, ce que je suis, le millénium n'est qu'une péripétie du plan de Dieu. C'est 1000 ans, mais 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur, et après les 1000 ans, l'essentiel de notre espérance aura lieu. Et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le jugement dernier, nous vivrons pour toujours avec le Seigneur, c'est les temps éternels. Pour les Juifs aussi. Et donc, c'est bien de débattre du millénium, mais le millénium, ce n'est pas l'objectif eschatologique, c'est un élément des événements que nous pouvons trouver important. Voilà. Donc, c'est important parce que si on est centré sur Israël et sur les accomplissements terrestres, c'est bien, mais l'Église, le peuple rassemblé par le Christ, c'est lui qui va régner éternellement. La lettre aux Éphésiens parle de cette union entre juifs et non-juifs, et il est dit que Christ a créé en sa personne, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau. Il y a quand même la promesse éternelle. Je vais introduire déjà l'idée, c'est que les promesses pour Israël ou le statut d'Israël n'a rien à voir avec le salut éternel, mais avec une destinée particulière du peuple juif dans les temps derniers. Parce que de nouveau, je vous rappelle, on ne devient un enfant de Dieu pour l'éternité que par la foi en Jésus, pas par le statut juif ou non juif ou je ne sais pas quoi. Les points faibles de la millénarisme, souvent, historiquement, a été accompagné d'antijudaïsme assez agressif. Vous voyez dans les à Augsbourg, carrément, ils rejettent la foi dans le millénium comme étant une pensée judaïque. Vous voyez, donc il y a une sorte d'hostilité. Bon, on se dit, hein, Luther était bien là derrière. Mais il ne faut pas soupçonner tous les amillénaristes d'hostilité envers les Juifs, ce serait très court et très injuste. Parce que certains croient à une conversion massive des Juifs à la fin des temps, voire même à un rôle politique des Juifs à Jérusalem à la fin des temps. Je vous donne pour exemple Henri Blocher, professeur à Vaux-sur-Seine, qui a, lui, changé de position quand il était jeune, comme son père et tous les gens qui l'entouraient. Il était pré-millénariste et sa lecture des Écritures l'a convaincu de l'amillénarisme. Donc il est devenu amillénariste. Mais il croit à des événements derniers concernant Israël quand même. Voilà ce qu'il dit à partir de Luc 21, 24, où Jésus prophétise, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée par les nations, aux nations prenne fin. Prophétie de Jésus, donc que les juifs vivront la diaspora jusqu'à la fin de la période accordée aux nations. Et voilà comment Henri Blocher, amillénariste, interprète ce texte. Cette parole suggère, il est prudent, cette parole suggère, sans le dire explicitement, qu'après ce temps des nations, ou au moment de sa fin, Jérusalem reviendra sous le contrôle politique des Israélites. Si l'on interprète ainsi ce verset, il est impressionnant de penser que depuis la révolte de Bar Corba, 132-135 après Jésus-Christ, la dernière grande révolte juive, hein, donc depuis la révolte de Bar Corba, Jérusalem a été foulée aux pieds pendant des siècles par les nations, et que depuis 1967, tel n'est plus le cas. Lecture prophétique ou d'accomplissement par rapport à la reconquête de Jérusalem par l'État israélien en 1967. Henri Blocher qui, par ailleurs, tient plutôt la thèse que c'est l'Église maintenant, le peuple de Dieu, etc. Donc il croit à une destinée, ça lui est resté peut-être de son prémillénarisme originel. Et c'est un homme très délicat, hein. Moi je l'ai eu comme cours, il est excellent. Je pense, dans le monde francophone, c'est le théologien le plus brillant qui existe actuellement. C'est juste, voilà, à mon avis, j'ose le dire, on peut d'accord ne pas l'aimer, mais il est extraordinaire et il est fidèle à Dieu. J'ai trouvé très humble une fois, j'ai vu une émission, des fois il passe aussi à l'HET Pro. Quelqu'un a dit, mais c'est quoi votre prière aujourd'hui? Il dit, que je garde la foi. Vous voyez, pour un homme qui assure. Hein. Donc, ce que je dirais, c'est que l'interprétation purement spirituelle des promesses envers Israël néglige en fait, c'est que beaucoup de promesses concernant la première venue de Jésus ont été littérales. Donc il y a eu des promesses qu'on aurait pu spiritualiser. D'ailleurs, certains juifs les spiritualisaient, hein. C'est clair, en allégorie, etc. Mais si vous lisez les évangiles, il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies. Cela arrivera afin que s'accomplisse la parole, et puis c'est très littéral. Donc pourquoi complètement changer de mode d'accomplissement ou de lecture des prophéties pour les prédictions qui ne sont pas encore accomplies? Alors soyons clairs, le Nouveau Testament, c'est ça qui nous met un peu en défaut, ne fait pas qu'une interprétation littérale. Il n'y a pas simplement de passages de l'Ancien Testament qui sont interprétés de manière spirituelle. Je n'ai pas le temps de développer, mais Jésus, chaque fois qu'il parle du Nouveau Temple, il dit c'est son corps, il rejette l'idée. Quoi. C'est très clair, chaque fois que Jésus parle du Temple, il déprécie le Temple physique en pierre. Il dit « Détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours ». Il parlait de son corps. Jésus a l'air clairement de dire que le troisième temple, c'est lui. Vous voyez, c'est une lecture spiritualisante. Mais c'est Jésus. Donc moi qui suis prémillénariste, qui sais que certains prémillénaristes n'attendent que la reconstruction du temple juif, parce qu'il y a des prophéties qui le disent, Jésus, on fait une lecture spiritualisante. On verra aussi que l'Apocalypse rapporte à la Jérusalem des temps éternels, la nouvelle création, des prophéties sur la Jérusalem terrestre dans les prophéties. On va le voir dans la dernière heure. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut être tous humbles face au texte biblique et dire que j'ai telle grille d'interprétation, je tends vers une lecture littérale, mais le Nouveau Testament se permet une lecture variante et riche. Et donc ce n'est pas si simple que ça. Je peux vous dire, pour préparer ce travail, j'avais un petit livre de Pierre d'Espagne, Les prophéties, je peux lui dire Les prophéties prouvent le retour d'Israël, et il citait que des versets qui parlaient du retour des Juifs. Oui, mais les 9 dixièmes de ces versets concernent le retour d'exil babylonien. Et il n'y avait aucune profondeur d'analyse du texte dans son application. Chaque fois qu'on dit que les Juifs reviennent, allez, c'est bon, c'est pour la fin des temps, alors que les Juifs sont déjà revenus de Babylone au 5e siècle ou du 6e siècle. Donc il y a aussi des fois, on essaie tellement de mettre de l'eau dans son moulin qu'on met n'importe quoi dedans. Et il faut être équilibré. Moi, je pense qu'il y a des prophéties qui peuvent tout à fait nous indiquer qu'il y a un retour à la fin des temps d'Israël dans sa terre, y compris dans les paroles de Jésus, comme souligne Blocher. Donc ce qui arrive, me semble, est un accomplissement des prophéties, mais toutes les prophéties qui parlent d'un retour des Juifs ne concernent pas maintenant, mais concernent aussi le passé. Des fois, elles les concernent les deux. Donc il faut être vraiment bon exégète. Si j'avais le temps, l'énergie et une direction de Dieu, c'est le genre de travail que je mènerais vraiment, de regarder tous ces passages, d'essayer de faire quelque chose de cohérent. Parce que je vois chacun de son côté, hein. Souvent il y a beaucoup de verse proofing, on sort les versets les uns derrière les autres pour prouver son point, mais est-ce qu'ils ont vraiment été étudiés? Est-ce qu'on a regardé l'original? Est-ce qu'on a regardé les résonances? Est-ce qu'on a regardé comment le Nouveau Testament les utilise? Pas sûr, pas sûr. Maintenant on va arriver à une position plus rare, qui est le post-millénarisme. Post, ça veut dire après le millénium, c'est-à-dire que Jésus revient après le millénium. Alors le millénium, c'est une vision, le post-millénarisme a une vision très optimiste de l'histoire. Nous allons entrer dans des temps où l'évangile va être annoncé au monde entier, le christianisme va triompher sur terre, et Jésus reviendra sur une terre où l'évangile aura triomphé, sur une terre chrétienne. Voilà. Le post-millénarisme rejette l'idée d'un millénium qui verrait la restauration de la nation d'Israël, donc il n'y a de nouveau pas Israël dans le coup, ni un règne terrestre de Christ. Mais le millénium, c'est cette dernière période de l'histoire humaine avant le retour de Jésus qui serait une période heureuse de plusieurs centaines d'années. Alors c'est assez typique du 18-19e siècle avec le rationalisme, avec la joie du progrès, toutes les idéologies de progrès du 19e siècle. On peut penser au darwinisme qui pense aussi que l'évolution mènera toujours, et y compris l'humanité, à devenir meilleure, etc. On croyait au progrès de la science, au progrès, etc. Même sans Dieu. Et chez les chrétiens, il y a l'idée aussi, on va changer politiquement le monde, la démocratie, le capitalisme, tout ça, ça va amener le monde vers des temps meilleurs, nous allons vers des temps meilleurs. Le progrès en lui-même est une valeur, et d'ailleurs c'est intéressant aujourd'hui de voir politiquement, on peut discuter de la notion de gens qui se disent progressistes, pour qui le progrès par définition ne peut qu'être bon. Hein, je suis un progressiste parce qu'on va vers le meilleur, vers l'égalité, etc. Voilà. Le problème, c'est que le XXe siècle, qui a suivi ces grandes thèses post-millénaristes, voilà, il y a eu 2 guerres mondiales, les pires boucheries de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu la Shoah, plusieurs génocides. On peut commencer avec le génocide arménien, qui a quand même été l'inspirateur. C'est-à-dire qu'il y a des observateurs allemands qui ont vu comment les Turcs liquidaient les Arméniens et comment ils arrivaient à cacher aussi un petit peu les choses et qui ont repris ces thèses quand le nazisme est monté en puissance. Il y a eu les formes de fascisme, il y a eu le communisme. Là aussi, les systèmes totalitaires, il y en avait de toutes sortes, hein. Je rappelle que le bilan du communisme au XXe siècle, c'est 85 millions de morts, dont 65 millions en Chine. Morts liés à la persécution, liés à des famines organisées, etc. 13 millions en Union soviétique, je crois 3 millions au Cambodge sur, je ne sais pas s'il y avait 5 millions d'habitants. Voilà, j'avais un collègue, un étudiant avec moi, cambodgien, qui avait fui à travers la jungle du Cambodge parce qu'il était instituteur. Vous savez, sous les Khmer rouges, vous aviez une paire de lunettes, vous étiez un bourgeois. Hein. Et il avait fui 400 km dans la jungle, s'était réfugié en Thaïlande, et dans un camp de réfugiés en Thaïlande, s'était converti à Jésus. Il s'appelait Khun Pat, et il a été pasteur dans des églises cambodgiennes en France jusqu'à il y a 2 ans, mais il est décédé, il avait une insuffisance rénale, mais il a vraiment été un témoignage du Christ. On a aussi vu l'avènement de l'arme atomique. Question progrès, on peut mieux faire, quoi. Le progrès est bien, mais il est mal utilisé. Avec une mise en application hein, de l'arme atomique. Donc, voyez, un XXe siècle quand même qui nous a montré que ces glorieux progrès de l'humanité voilà, sont entachés. Et un chrétien doit être conscient de la réalité du péché qui fait que même les bonnes choses peuvent être vraiment très mal utilisées. Donc l'idée est qu'un monde va en se christianisant et marche de progrès a quand même du plomb dans l'aile. Mais aujourd'hui, il existe des mouvements, je les ai notés, des mouvements notamment liés à la théologie de la prospérité, et notamment un mouvement qui est en train de gagner des dizaines de millions de chrétiens néo-charismatiques, pas les pentecôtistes qui ont résisté à ça, c'est la nouvelle réforme apostolique dont deux têtes de proue bien connues sont Bill Johnson de Bethel Reading et Benny Hinn. Mais ce sont parmi ces nouveaux apôtres autoproclamés qui pensent restaurer l'apostolat des douze, donc avec la même autorité que les apôtres fondateurs de la Bible et du christianisme, et qui vont dominer le monde, alors peut-être plus que douze, avec un pouvoir de tuer les gens et tout. Hein. Ils vont régner sur terre, les chrétiens vont régner. J'ai lu des textes de Bill Johnson qui dit « Ne me parlez pas de temps difficiles à la fin des temps, nous allons vers des temps glorieux, nous allons conquérir. » Ce n'est pas pour rien que tous ces théologiens de la prospérité sont à fond derrière le président américain actuel. Que Paula White, qui est le gourou de Trump, est une théologienne de la prospérité pur jus. Parce qu'eux, ils voient là vraiment la reconquête de la société par des chrétiens qui vont dominer, imposer la loi à l'humanité. Bill Johnson, Benin, j'ai entendu sur le sujet, mais Bill Johnson, il célèbre Trump comme le nouveau Cyrus, le nouveau sauveur de l'Amérique, hein. Et peut-être le suivant, hein, on va s'arrêter à Trump. Hein. Mais ça fait un moment, ça fait quand même quelques décennies qu'il y a ces courants-là. Mais dans les milieux charismatiques, donc c'est du post-millénarisme moderne, de gens qui, voilà, on va conquérir le monde, on va être les meilleurs, les plus forts. Il y a un autre post-millénarisme qui est plus fondamentaliste, plus conservateur, c'est la Christian Reconstructionisme, les reconstructionnismes, avec une figure de proue, je crois qu'il est décédé, c'est Rousseau Rushdoony. Alors ça, c'est des calvinistes vraiment qui veulent revenir un peu comme du temps de Calvin et imposer à la société les 10 commandements avec les peines associées, c'est-à-dire les homosexuels, on les exécute, les enfants désobéissants aussi, les adultères aussi, peine de mort, on rétablit la loi de Dieu comme elle était promulguée par Moïse dans la société américaine. Voilà, une charia chrétienne, et donc au nom aussi de l'idée d'une reconquête de la société où on va imposer la foi chrétienne. Alors là, c'est clair que les anabaptistes que nous sommes, on a de la peine avec ces quêtes de pouvoir politique. Parce que nous ne sommes pas pour des églises d'État ou des églises dominantes. Je rappelle que notre eschatologie dit que c'est Jésus qui instaurera son royaume, mais pas les humains, que nous sommes que des annonciateurs, nous appelons le peuple à se tourner vers Dieu, mais c'est Jésus qui établit le règne de justice, que l'Église n'est pas le bras armé de Dieu pour le faire, et que chaque fois que l'Église s'y est prise, a cru le faire, c'était une catastrophe. Voilà. Je dis comme ça, moi je suis personnellement non-anarchiste chrétien, et je crois que notre impact sur la société ne sera pas la conquête politique, c'est pas impossible d'être chrétien politicien, c'est pas la question, mais il n'y a pas de conquête politique du monde par le monde politique. Par contre, on peut bénir la cité, on peut agir dans la société pour son bien. On n'a pas besoin de passer par un appareil de domination politique. Voilà. Alors le point fort, il faut quand même trouver, c'est que le post-millénarisme qui est tellement conquérant, ben, il nous encourage, nous, à évangéliser le monde, à ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'on a vu des chrétiens dans un autre excès, disant « de toute façon, on va vivre des temps tellement épouvantables avec l'Antichrist et tout le Bataclan ». Alors réunissons l'Assemblée des Saints dans des salles d'attente du retour de Jésus, et puis ben, le monde est déjà foutu. Hein. Si on pense au darbisme à l'origine, darbisme dit c'est fini le temps de l'Église. Il n'y a plus de ministère, il n'y a plus d'Église. Il faut juste que les saints se rassemblent, conduits par le Saint-Esprit, en attendant le retour de Jésus. Et c'est vrai que l'impact d'évangélisation des darbistes n'était pas très très fort. Il y a des darbistes qui ont... Mais je veux dire, ça a été un... et moi j'ai vu des gens se révolter contre un certain prémillénarisme parce que c'était, de toute façon, tout est foutu. Mais moi j'ai entendu des gens qui disent même, par exemple, « Ah, vous trouvez que Trump c'est mal, mais c'est très bien parce que de toute façon on va vers le mal, alors si on encourage... Si on élit l'Antichrist, ben on va accélérer les temps, voyez. Mais je ne pense pas que Dieu attende de nous qu'on élise le diable. Je veux dire, l'Église doit être le poil à gratter du diable. On doit être ceux qui empêchent, on doit être ceux qui protestent. Nous devons être des ferments de vie dans cette société. On sait que les choses vont aller sans doute vers le mal, mais il ne faut pas que nous, on soit des acteurs d'accélération du mal. Hein, je veux dire, ce serait stupide. C'est comme les gens qui disent « je pêche afin d'être gracié hein. ». C'est Rasputin, hein, le conseiller du tsar, un peu taré, qui était dans une secte où il se vautrait dans la débauche pour recevoir après un pardon d'autant plus grand de la part de Dieu. Paul a dit, hein, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes non, on ne peut pas faire ça quand on est chrétien. Point faible, c'est que le postmillénarisme oublie quand même qu'il y a beaucoup d'éléments sombres concernant le temps de la fin. On parle de temps de crise, de monde en crise, et Jésus vient... dans un monde en crise, mettre un stop à la folie des hommes. Et on ne va pas vers des temps super meilleurs comme ça, bien qu'il peut y avoir des éclaircies. Hein. Et puis il y a souvent aussi quand même une perte de vue des accomplissements pour les Juifs, avec un risque d'antisémitisme. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai mis B.B. Warfield, c'est un des tout grands théologiens, Benjamin Warfield, et Charles Hodge aussi, grand théologien, Benjamin Warfield à la... entre le 19e et 20e siècle, tout bon théologien, sur d'autres plans, excellent théologien. Hein, voilà. Mais ils avaient ces idées-là, qui étaient très américaines. Hein, aussi l'Amérique, elle rêve aussi d'une société idéale. On va reconstruire une société. Vous allez en Pennsylvanie, hein, je ne sais plus la ville, comment ça s'appelle, mais la ville de William Penn. Hein, le nom est très connu, c'est Pike Penn. Mais c'est la première ville où toutes les rues sont en angle droit. Hein, et puis ça a été le pattern, le schéma pour d'autres villes. Hein. On voulait faire la ville idéale, hein, avec des avenues et des rues, hein, comme ça, partout. Voilà, une sorte de Jérusalem, ouais, terrestre ou céleste, ou voilà. Alors, la Chaux-de-Fonds, oui, alors c'est, on dit que c'est des urbanistes de Chicago qui ont reconstruit la ville après, ou construit la ville après le grand incendie. Ouais. Philadelphie, voilà, je cherchais le terme, voilà, qui veut dire l'amour fraternel, et c'est l'Église dans l'Apocalypse, la septième, là, l'Église fidèle. Hein. Vous voyez, c'est un rêve comme ça. Alors on arrive au prémillénarisme. Alors là, j'ai trouvé une vieille gravure du Moyen-Âge, de la Renaissance, où on voit un ange qui est en train d'enchaîner le diable. Alors prémillénarisme veut dire avant le millénium, c'est que Jésus revient avant le millénium, et il instaure donc un règne terrestre. Et beaucoup d'évangéliques croient au millénium. Nos églises de réveil sont historiquement attachées au prémillénarisme. On peut penser à Adolf Hunziker, notamment, qui a été un des vrais précurseurs de la conscience aussi chrétienne par rapport à l'État d'Israël, etc. On parlera de lui en fin d'après-midi. Mais il y a beaucoup, tous les mieux pentecôtisants, souvent charismatiques, mais maintenant c'est en train de changer avec le post-millénarisme, mais disons, tous ces milieux-là, assez logiquement, qui sont aussi issus des mouvements de frères. Il faut réaliser que beaucoup des églises pentecôtistes, c'est rare, à l'origine, c'est des frères donc, de style darbiste ou apparenté, qui étaient déjà dans une eschatologie prémillénariste. Donc ça va de soi. Le pentecôtisme aussi, qui ben voilà, est aussi une lecture souvent assez littéraliste des textes. Voilà, on prend le texte comme il vient. Aussi, parce que c'est des milieux où on est dans une théologie du bon sens. On a au départ, c'était pas le cas, mais de plus en plus, les pasteurs et cadres pentecôtistes qui se sont formés, pas dans des écoles bibliques, mais avec un pasteur sur le terrain, des gens donc avec un manque de bagage et de capacité d'interprétation des textes, qui fait qu'ils font une lecture très, 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 très linéaire, très plate des textes. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce positionnement. Mais la lecture littérale n'est pas la seule. On croit que les prophéties, à plusieurs niveaux, plusieurs étages. On parle souvent des vallées. On voit plusieurs montagnes, puis il y a des grandes vallées ou des petites vallées entre. Donc on croit que telle prophétie, par rebondissement, a plusieurs effets, mais dont une pendant un effet pendant le millénium. Je prends l'ouvrage de doctrine, je vous recommande, qui est pour tous, qui s'appelle « Pour une foi réfléchie », piloté par Alain Nusus. Voilà comment on définit le prémillénarisme. Le retour du Christ ne s'ouvre pas tout de suite sur l'éternité. Après lui s'installe un règne terrestre du Christ qui liera Satan pendant 1000 ans. Ce règne se déroulera sur terre et avec son Église tout entière, composée de croyants d'origine juive et non juive. Dans cette vision-là, Jérusalem, la Jérusalem d'aujourd'hui, celle qu'on peut aller visiter en touriste, où on y habitait, va jouer un rôle central. Jésus va régner dans la ville. Et après 1000 ans de règne, où on dit une grande période, c'est pas aussi sûr, le diable se révolte avec une partie de l'humanité, et là on arrive au jugement dernier, suivi de la destruction de la terre et de la recréation de la terre, ou de la dévastation de la terre et de la restauration de la terre. Il y a débat. Ça, on va laisser des débats spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de variantes hein, dans les mouvements. Et l'idée aussi, c'est le rôle du peuple juif dans ce millénium, parce qu'on dit, mais toutes ces prophéties qui doivent s'accomplir sur terre, il faut bien qu'elles s'accomplissent avant qu'il y ait la nouvelle terre. Donc, les promesses pour le peuple juif auront lieu pendant le millénium. Le peuple d'Israël va être restauré pleinement en tant que peuple de Dieu, en tant que nation, guidé par Jésus, par le Christ, par son Messie. Pour Apocalypse 20, l'enchaînement de Satan, et je crois que c'est un bon argument, c'est difficile à rapporter seulement à la victoire de la croix. Voilà le texte qui dit « L'ange s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Vous avez 4 appellations du diable, donc c'est pratique pour lire le reste de la Bible. Hein. « Il l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. » Difficile de penser que le diable aujourd'hui soit incapable d'égarer les nations, d'autant que les textes du Nouveau Testament parlent de cette activité après la croix, que le diable est encore actif après l'œuvre de Christ à la croix. Je prends par exemple 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Oui, je crois que c'est bon. Paul dit « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, hein, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ qui est à l'image de Dieu. » De dire que Satan ne peut plus égarer les gens, alors que Paul l'affirme des dizaines d'années après, c'est discutable. Et puis la victoire définitive sur le diable, elle est encore future. Paul annonce aux chrétiens de Rome, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Mais il n'est pas encore écrasé, voyez. Et puis, certains disent, mais regardez Apocalypse 20, le millénium, on ne parle jamais d'Israël dedans. Pourquoi vous mettez Israël? Alors, je voudrais quand même souligner, c'est un argument que j'ai trouvé dans un livre d'Alfred Kuhn, Le labyrinthe du millénium. Mais, il y a le verset 9. Le verset 9 dit, il parle des peuples du monde entier montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendu du ciel et les dévora. Et la ville bien-aimée, à mon avis, c'est Jérusalem. Alors on peut spiritualiser, mais il ne faut pas dire « je spiritualise, donc j'exclus toute référence à Jérusalem ». C'est évident que là, il y a Jérusalem. Jules-Marcel Nicole, théologien prémillénariste, ancien fondateur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, souligne aussi une vérité théologique. « Si l'emprisonnement de Satan n'est qu'une limitation de son pouvoir, cela ne date pas de l'ère chrétienne, car l'adversaire n'a jamais pu faire ce qu'il voulait, totalement, jamais. » Et il prend l'exemple de Job, l'histoire de Job, c'est très intéressant de voir que l'accusateur, le Satan, ne peut aller que là où Dieu lui dit d'aller. Et à un moment, Dieu dit, donc tu peux détruire ses biens. Après, tu peux détruire sa santé, mais tu ne peux pas le tuer. Et le Satan ne peut qu'obéir à Dieu. Il peut pas aller plus loin que Dieu lui fixe. Et vous remarquez chaque fois dans la Bible, quand le diable se voit opposer la parole de Dieu, il obéit. C'est le plus grand des légalistes. Il va obéir. Y compris face à Dieu, aujourd'hui, quand il déroule vos péchés et les miens devant Dieu pour nous accuser, s'il le fait toute la journée, et que Jésus se tient avec les marques de la croix pour dire non, mais la peine est tombée sur moi, ils ont été pardonnés, tu peux plus les accuser. Le diable doit s'arrêter. Et notre autorité sur l'ennemi, ce n'est pas une question d'ordre d'énergie et de la foi, c'est dire, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et l'ennemi, et les démons, et toute cette puissance ténébreuse, ne peut que se rendre à l'évidence de la victoire du Christ. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grande foi. Il faut une foi toute simple dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est légal. Notre autorité sur l'ennemi, elle est légale. Ce n'est pas lié à une quantité de foi, c'est lié à la qualité de l'œuvre de Jésus. Petite parenthèse pour votre combat spirituel. On a des combats spirituels à mener, mais il faut surtout faire sonner aux oreilles du diable la vérité de la parole, la vérité de l'œuvre de Jésus. Et après, le diable se retire, hein, comme avec Jésus. Vous savez, il ne pourrait pas se retirer s'il avait le droit de rester. Hein. Voilà. On reproche aux prémillénaristes de parler de deux résurrections, puisqu'il y a les croyants avant le millénium, la première résurrection, puis après celle plus tard des réprouvés. C'est vrai que certains textes évoquent la résurrection des croyants et des réprouvés comme possiblement simultanées. Je donne un exemple. Paul dit au gouverneur Félix dans Actes 24, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Mais on peut noter aussi qu'il ne dit pas non plus que c'est forcément simultané. Il dit qu'il y aura deux résurrections, deux sortes de résurrections. Donc ce n'est pas si faux de penser à deux résurrections. Bien sûr, on pourrait passer une journée ou une semaine à parler de ces différentes positions. Je survole. Hein. Les points forts du premier live, c'est que c'est une lecture qui est moins forcée des prophéties et qui prend au sérieux l'idée d'une destinée particulière du peuple juif. Les points faibles, parfois, ça peut être mon péché aussi, c'est d'être tellement obnubilé par le millénium qu'on oublie que nous sommes, nous, notre espérance, c'est la vie éternelle et le règne éternel. Et que notre espérance, c'est la résurrection des corps, est vraiment d'être pour toujours avec le Seigneur. Et que le millénium, on y croit, mais ce n'est quand même pas l'épicentre de notre espérance. C'est un aspect, je l'ai déjà dit. On arrive à une sous-classe du prémillénarisme qui est le dispensationalisme. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dispensationalistes dans certains points. Ça se trouve chez beaucoup de gens. Essentiellement, ça a été systématisé par John Nelson Darby, fondateur du darbisme, et de, c'est quoi son prénom? Cyrus Ingerson Scofield, on voit toujours C.I. Scofield, c'est vrai que c'est Cyrus Ingerson qui l'a suivi un peu. Et puis aujourd'hui, bon, il est mort en 2016, mais il y a Charles Ryrie aussi, qui a écrit Milan, Règne de Milan. Et le dispensationalisme a eu beaucoup de succès dans le milieu fondamentaliste, parce que c'est une lecture ultra littérale du texte, et parmi tous les systèmes parlant de la fin des temps, c'est celui qui a le calendrier le plus précis, ceci arrive, c'est tel moment, donc c'est très précis, donc c'est très séduisant, c'est très construit. Hein, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de mystère, c'est tout comme ça. Hein. Puis après, on va se chipoter si on est pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste. Est-ce que l'Église sera enlevée avant, au milieu ou après la grande tribulation? Et puis on va diviser les Églises pour des histoires de queue de cerise divisées par 8. Hein? Mais disons, la théorie de base du dispensationalisme, et j'ose la contester en tant que prémillénariste modéré, c'est l'idée que l'histoire du monde est coupée en 7 dispensations, en 7 périodes. 7 fois, il y a des alliances que Dieu conclut avec l'humanité. Chaque fois, ces alliances échouent, sauf la dernière qui est les temps éternels. Donc chaque fois, ça rate. Et ce qu'il faut comprendre dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes que dans la cinquième dispensation, qui est celle de la grâce ou de l'Église, et que la grâce n'est qu'une réalité provisoire. C'est une parenthèse. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus arrive et veut établir le royaume millénial. En fait, il arrive, il veut qu'Israël le reconnaisse comme roi et qu'il soit le roi d'Israël. Mais au milieu des évangiles, il est rejeté. Donc il change le plan. Ça a échoué, cette alliance-là. Et donc il crée l'alliance de la grâce qui permet à tous les êtres humains d'être sauvés. Mais cette alliance va se fermer. Et puis quand il y aura le millénium, Jésus va rétablir le temple, les sacrifices d'animaux, et régner sur un Israël idéal comme il aurait voulu régner avant. Avec des fois des éléments vraiment étonnants. Alors, tous les dispensationnistes n'en sont pas là, mais certains disent, vous voyez, le sermon sur la montagne, heureux, 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 ça, c'est pour le millénium. Donc aujourd'hui, ça ne nous concerne pas, on ne doit pas se laisser interpréter. Mais les points faibles, et j'ose le dire, découper l'histoire du monde en sept dispensations est compliqué. Surtout avec l'idée que l'Église serait une parenthèse. Or, bibliquement, j'ose le dire, le message de la grâce et du salut par la foi seule, traverse toute la Bible. Abraham est justifié par la foi. Nous sommes enfants d'Abraham parce que, animés de la même foi, nous sommes sujets à la même nouvelle naissance. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est très important. C'est-à-dire qu'Abraham a été sauvé, nous aussi, et de la même manière. Voilà. Moïse, dans la loi, Deutéronome, alors je ne sais pas si j'ai... Ouais, j'ai pas... Oui, Deutéronome 10, Deutéronome 30, vous avez les passages, il dit aux Israélites qu'il faut qu'ils circoncisent leur cœur. On parle de circoncision physique, mais il dit « circoncisez votre cœur ». Et dans Deutéronome 30, il dit même « c'est le Seigneur lui-même qui circoncira votre cœur ». Donc Moïse est en train de dire, voyez, il y a la loi, les rituels et tout, mais c'est votre cœur qui doit changer. Et c'est Dieu qui va changer votre cœur. Donc le message de l'Évangile et de la nouvelle naissance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est annoncé dans la loi même de Moïse, au moment de Moïse. Moïse avait la vision juste, c'est le vrai, voilà, en tant que dispensateur de la loi. Et quand Jérémie va exhorter les Judéens, il va aussi dans le même sens, l'appeler à la circoncision du cœur. C'est quand même Jérémie qui dit que la loi sera mise dans le cœur aussi, Jérémie 31-33, il y a des prophéties qui annoncent tout ça. Et ce n'est pas juste une parenthèse dans l'histoire, ça a toujours été le moyen d'être sauvé. Je me rappelle un pasteur anciennement des églises de réveil, je lui ai demandé, comme nouveau converti, mais les gens de l'Ancien Testament, ils étaient sauvés comment ? Ils disaient, mais par l'obéissance à la loi. Je vais vous dire une vérité, personne n'a jamais été sauvé par l'obéissance à la loi, parce que personne n'y arrive, c'est tout simple. La loi, elle dit, si tu m'obéis, tu es sauvé. Et il est aussi dit, malheur ou maudit soit quiconque n'obéit pas toutes les paroles de cette loi, Deutéronome 27. Et Paul, il dit, ceux qui veulent être justifiés par la loi, s'y transgressent une fois dans leur vie, un commandement tombe sous la malédiction de la loi. Donc si vous cherchez à être juste devant Dieu en obéissant à la loi, vous êtes maudit, vous êtes déchu de la grâce, il dit même aux Galates. Donc même dans la loi, le but de la loi, un des buts, c'est de nous désespérer sur nous-mêmes pour que nous espérions en Dieu seul. Paul reprend l'idée aussi sur la circoncision. Moi, je croyais que c'était de Paul. Je crois que c'est une originalité de Paul dans Romains 2. Ben non, il ne fait que de répéter ce que dit Moïse. Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Il est en train d'écrire dans Romains 2 à un juif hypothétique, parce qu'il a parlé de tous les péchés de l'humanité, puis il dit « Et toi, toi qui penses être meilleur qu'eux, qui est juif, parce que toi, tous ces péchés des païens, tu ne les fais pas, bah, tu pèches de la même manière d'eux. Et de toute façon, rappelle-toi que le vrai juif, c'est celui qui a un cœur changé. Et tu ne peux pas te prévaloir de ton obéissance à la loi pour juger les païens. » C'est ça tout l'argument de Paul. Donc tout le message de l'Évangile insiste sur ce fait. Et puis les héros de la foi de Hébron, c'est aussi tous des gens qui ont mis leur foi en Dieu, qui ont été sauvés. Avant d'avoir même su ou vu Jésus, ils ont mis leur foi en Dieu avec ce qu'ils pouvaient. Un peu pour répondre à ta question tout à l'heure. Et puis, alors là on peut se poser des questions, c'est la reconstruction d'un temple juif à Jérusalem, avec le retour des sacrifices d'animaux, si on pense que le sacrifice est une valeur devant Dieu. Il me semble que c'est très compliqué, dès l'instant où même l'Épître aux Hébreux est très clair, que les sacrifices d'animaux n'étaient que des ombres des vérités à venir, qui annonçaient le sacrifice parfait du Christ, sachant qu'un animal ne peut pas nous représenter, ne peut pas nous remplacer pour un sacrifice, ce n'est qu'un animal. Il fallait bien qu'un homme, et un homme parfait, sans défaut, meure pour nous les pécheurs. Donc, tuer un animal pour montrer qu'il fallait qu'il y ait une mort qui intervienne, qu'il y ait une sanction de nos péchés sur quelque chose, ça c'était la loi. Mais une fois que Jésus est venu, son sacrifice met fin à tout sacrifice. C'est la théologie, ça, de base. C'est l'Évangile. Alors Charles Ryrie et Payne, ils disent, eux, ils voient les sacrifices du futur qui ne seront que les offrandes en souvenir de la croix. Et ils s'appuient sur la parole de Jésus qui, quand il institue la scène, Jésus dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc ils disent, voyez, Jésus dans le royaume de Dieu, il sacrifiera de nouveau la Pâque. Il y aura nous un agneau qu'on sacrifiera pour la Pâque. Alors moi, ils disent, ce sacrifice aura dans le millénium, comme toujours, un caractère commémoratif. Mais il me semble qu'on passe à côté de la pensée de Jésus. Jésus institue la scène en remplacement de la Pâque, comme une nouvelle Pâque, qui est la commémoration de son œuvre de salut. Et il est en train de manger la scène avec ses étudiants, ouais, ses disciples, en disant, bah, cette sainte scène, je la prendrai avec vous, mais sous cette forme. Pas besoin de sacrifier un agneau. Il y a le pain et le vin. Et je trouverais très régressif qu'on dise, ben, tant pis pour la Sainte Seine, on revient, on égorge les animaux. Voilà. Je ne dis pas que c'est absurde. Certains pensent que les premiers chrétiens, judéo-chrétiens, avant qu'ils se fassent persécuter, ils allaient encore au temple, qu'ils vivaient peut-être les sacrifices en disant, oui, ces sacrifices me rappellent l'œuvre du Christ, peut-être. Ce n'est pas impossible à tenir. Et les frères et sœurs en Christ qui croient à ça, peut-être qu'ils ont raison, mais j'ai de la peine à y croire moi-même. Voilà. Louis Bonnet, un commentateur du 19e siècle, dit Jésus, n'allait-il pas substituer à l'agneau pascal l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui est le vrai objet de la scène? Si on a le vrai agneau, pourquoi prendre ce qui était juste une annonce prophétique? Vous voyez, c'est un peu revenir à la prédiction quand l'accomplissement est là, c'est un peu bête, quoi. Bref, ce que je voudrais, avec ce survol qu'on a fait ensemble, c'est de comprendre qu'il y a des divergences, certaines même semblent irréconciliables, entre chrétiens qui aiment Jésus, qui sont nés d'en haut. Et je crois que ça va nous donner simplement, voilà, j'ai un petit dessin, trois choses. L'humilité, de se laisser interpeller par les autres. Ok, moi j'ai des convictions, je suis prémillénariste, je ne suis pas prêt d'en changer, plutôt confirmé dans mes convictions, voilà, souvent ça arrive. Mais j'ai l'humilité de laisser les autres m'interpeller par leurs convictions, parce que des fois ils ont compris des choses que des fois je perds de vue. Deuxièmement, je dois respecter les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas comme moi que c'est des méchants. Voilà. Et puis, quelle que soit ma position, réprouver tout antisémitisme et aimer le peuple juif. Voilà. Donc, même une position qui dit « Je ne crois pas que les juifs aient un rôle particulier à la fin des temps en tant que peuple juif », tant que ça s'arrête là, puis qu'on ne dit pas « c'est des sales types et puis il faut les détester », etc., tu peux le penser, je ne suis pas d'accord, mais voilà. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui dit ça ne dira pas « il ne faut pas leur annoncer l'Évangile, ils n'ont pas besoin de Jésus ». Non, on est tous d'accord qu'ils ont besoin d'entendre l'Évangile, de se tourner vers Jésus. Je dirais même le contraire. J'ai vu des gens qui disaient « Oh, mais les Juifs, ils seront en Israël quand Jésus reviendra. » Et à ce moment-là, ils se tourneront vers lui. Donc, n'évangélisons pas les Juifs. Des Wim Malgo, des gens comme ça, étaient très bien vus de l'État d'Israël parce qu'ils s'interdisaient l'annonce de l'Évangile. Il faut savoir que l'État d'Israël, avec toutes les choses bonnes qu'on peut en penser, persécute les juifs qui deviennent chrétiens. Il y a plein de choses qui sont difficiles à vivre quand un juif devient un juif messianique. Par exemple, se marier. On ne peut se marier que devant un rabbin. Ouais, mais alors les athées ils s'en foutent, comme Dieu n'existe pas, ils vont volontiers chez un rabbin. Mais les chrétiens qui disent « je ne peux pas, je ne peux plus m'identifier au judaïsme », ben eux ils vont à Chypre ou en Grèce. Ils font un week-end, ils font un petit mariage rapide là-bas, ils reviennent en Israël, mais ça veut dire quand même que de la part de l'État d'Israël, il y a une espèce de... C'est étonnant, quoi. Par rapport au christianisme, il y a encore vraiment une hostilité, mais qu'on comprend, on a vu l'histoire compliquée, hein, je veux dire, voilà. Mais il ne faut pas croire que c'est si simple, quoi. Ouais, ben ils ont un imam, eux. Parce que les Arabes, les Arabes chrétiens, ils ont un Arabe chrétien, mais les Juifs messianiques sont embêtés parce qu'ils voudraient trouver un pasteur d'entre eux, quoi. Non, 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 mais c'est surtout les juifs messianiques parce qu'ils sont reçus comme juifs israéliens. Et un juif israélien doit passer devant le rabbin, il ne peut pas passer devant le pasteur, tu vois. C'est parce que, je veux dire, d'ailleurs, un juif qui se convertit ici, s'il veut devenir israélien, c'est quasiment impossible. Il y a eu quelques miracles, mais le fait de devenir chrétien pour beaucoup, on l'a vu chez les rabbins, c'est tout sauf ça. On peut être juif, on peut être athée, on peut être marxiste, mais juif chrétien, c'est inacceptable. Mais c'est lié à une telle douleur historique. Je veux dire, ça s'explique, mais ce n'est pas parce que je l'explique que je l'approuve. C'est dommage. Et vous savez, des mouvements comme Juifs pour Jésus, qui sont assez percutants, qui annoncent Jésus, ils sont très très mal vus en Israël. Et même, je connais même des messianiques qui ont de la peine avec Juifs pour Jésus, parce qu'ils osent aller vers leurs frères juifs en disant qu'il faut se tourner vers le Mashiach. Hein. Alors nous, de notre côté, on trouve ça formidable, mais je veux dire, il faut réaliser que c'est, comme toujours, c'est une histoire compliquée. Voilà. Moi, je pense que j'aurais plus de facilité en tant que païen chrétien à vivre en Israël que si j'étais un juif converti. Je pense que ce serait plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de mélange d'identité, donc c'est, voilà. Mais je ne deviendrai jamais un Israélien, ça, il faut que j'accepte. Hein. Il y a juste un, je vous recommande, si vous allez en Israël, à Arad, il y a un artiste hollandais qui est devenu chrétien en allant en Israël et qui est un artiste qui a fait un extraordinaire... il faut aller voir, c'est une petite maison. Je ne sais plus, la Fountain of Tears, ça s'appelle. Et lui, il a reçu la nationalité israélienne presque miraculeusement dans les années 70. Bon, il s'est battu aussi. Hein. Et il a été dans l'armée israélienne et tout. Et il a fait... Alors, il y a plein de juifs qui sont bouleversés, de chrétiens qui sont bouleversés. Il a fait un vis-à-vis entre Jésus sur la croix, plusieurs scènes, donc sous forme de statues, et des juifs des camps de la mort. Et il fait se regarder sous forme de statues ces juifs de la Shoah et Jésus mourant sur la croix. Et le printemps dernier, on était là, notre guide juive, elle n'avait jamais vu ça, elle était en larmes. Au début, on se disait, mais... un juif, il va se fâcher, pourquoi vous comparez Jésus à la Shoah? Ben, au contraire, il y en a beaucoup qui voient dans l'œuvre de l'artiste, et au point qu'il a créé un double de cette œuvre d'art avec la bénédiction des juifs près d'Auschwitz, comme un lieu de réflexion sur la souffrance du Christ et de ces juifs en pyjama, hein, on les voit. C'est impressionnant. Je vous recommande, si vous faites un voyage en Israël, Arad, c'est tout au sud, vous allez au bord de la mer Morte, allez voir. Et vraiment, c'est juste l'affaire de 2 heures, il y a un diorama et tout, et c'est absolument fabuleux. Au niveau d'un chrétien qui a rejoint le peuple juif, qui a su exprimer une souffrance à travers son art, ah, tip top, quoi. Et là, vous voyez, ça, c'est des chemins de dialogue entre juifs et chrétiens. Parce que, vous voyez, ça casse l'image que c'est les méchants juifs qui ont tué le Christ, puisqu'on identifie le Christ, on le met en lien avec le juif qui est massacré par des nazis. Donc je trouve vraiment génial. J'ai trouvé génial. Je ne suis pas un fou de l'art, mais là, vraiment, j'ai été bouleversé. Et voilà, je vous recommande. Ok, on se donne quelques minutes de pause, parce que je vous tiens le crachoir depuis un moment. Hein.